le passage également. Donc, ceux qui ont leur Bible avec eux, vous pouvez tourner à Romains au chapitre 2. On va commencer au début. Et comme j'ai dit, c'est ça, la semaine dernière, j'ai appris que Cynthia, notre invitée, vous avait entretenu sur la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Deux personnes qui sont venues au temple pour prier. Et à travers cette histoire, ben Jésus va critiquer ceux qui jugent les actions des autres. Vous vous souvenez sûrement, ceux qui étaient là. Ceux qui jugent les autres parce qu'ils se voient comme supérieurs aux autres aux yeux de Dieu. Et ça, c'est une pensée fausse. Elle est absolument fausse. Il n'y a personne sur la terre qui est supérieur aux autres humains aux yeux de Dieu. Et c'est une façon de penser qui déplaît à Dieu, parce que ça nous amène sur une mauvaise piste au niveau de notre relation avec lui. On se souvient aussi le sermon sur la montagne qu'on a déjà étudié ici à l'Église, où Jésus nous rappelle « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, parce qu'on va vous juger de la même manière que vous aurez jugé. » Puis, il se trouve qu'on revient dans notre série sur Romains et on tombe exactement, vous allez voir, on ne fait pas exactement, mais en gros sur le même sujet. Ne jugez pas. C'est peut-être une coïncidence divine, mais c'est une très bonne chose. Et ça m'encourage à continuer. Romains, on a vu, c'est la lettre de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le salut qu'on reçoit par la foi. C'est merveilleux. Et on vient de le célébrer dans nos chants. Mais il y a une mauvaise nouvelle derrière la bonne nouvelle, qui est que l'humain s'est mis à la place de Dieu dans sa propre vie, à ses propres yeux, et ça a causé toutes sortes de grabuges dont on a parlé dans les dernières fois. Mais en plus, il y a un autre problème, et on est rendu là, c'est que pour se faire croire qu'on est des bonnes personnes et que Dieu certainement nous considère bons et dignes de la gloire, eh bien, on juge les autres. Et c'est une fausse piste, c'est une erreur, et c'est quelque chose que Paul trouve important à traiter. Alors, nous allons lire ce qu'il dit là-dessus. Et j'aimerais qu'on prie encore une fois avant de lire le texte. Donc, Romains 2, à partir du verset 1. Prie avec moi encore. Oui, Seigneur, tu nous dis de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme Jésus a prié et quelqu'un l'a prié tantôt, Seigneur, moi je sais qu'est-ce que je voudrais, mais non pas ma volonté, mais la tienne, mais que nous devenions aussi comme cela, que nous prions comme Jésus, que nous devenions des gens qui accueillent, qui demandent ta volonté, même au-delà de la nôtre. Nous prions au nom de Christ. Amen. Alors, Romains chapitre 2, à partir du verset 1. Qui que tu sois, homme ou femme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité, ceux qui pêchent. Hein? Penses-tu, toi, qui juges les auteurs de tels actes et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par la persévérance à bien faire ou à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il va donner la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Aujourd'hui, on entend les gens dire « Faut pas juger, ne jugez pas, on n'a pas le droit de juger. » C'est quand même assez fréquent comme remarque dans les conversations chaudes. Et les gens citent Jésus souvent sans le savoir. Et c'est vrai que parfois ils comprennent mal, parce que c'est vrai que Jésus nous interdit de nous placer supérieurs aux autres et les juger comme inférieurs à nous devant Dieu, moralement ou spirituellement. Oui, c'est ce que vous avez vu la semaine dernière. Mais en même temps, Jésus ne nous interdit pas d'utiliser notre jugement, notre discernement de ce qui est bien et mal dans les actions autour de nous et dans nos vies, bien sûr. Mais Jésus nous dit, effectivement, ne jugez pas, c'est-à-dire ne vous placez pas en juge des autres humains. Même les gens très éloignés du christianisme trouve ce principe important. Et parfois, c'est pour se protéger eux-mêmes contre les autres. Je me souviens d'un film historique que j'ai vu il y a plusieurs années qui s'appelle Nuremberg. En fait, c'est un film qui relate les procès de Nuremberg. C'est à propos du jugement des criminels de guerre nazis qui a été fait par un tribunal des Alliés, les Alliés qui ont gagné la guerre. Après la fin de la guerre. Et dans une des scènes de ce film, Nuremberg, un procureur des Alliés va visiter un des condamnés nazis dans sa prison. Et il le questionne d'une manière professionnelle, parce que c'est un avocat. Il prépare un dossier pour le procès. Il termine son questionnement, qui est très tendu. Et là, il change de registre à la fin, et lui dit sur un ton plus personnel, « Mais ne savais-tu pas que ce que tu faisais était mal? » Le prisonnier le regarde dans les yeux et lui donne une réponse assez ferme en lui relatant les circonstances spéciales de sa vie durant la guerre et dans l'armée, ou en tout cas dans les SS ou que sais-je. Et il termine avec cette phrase, « Vous n'avez pas le droit de me juger. Personne n'a le droit de me juger. Personne. » Si l'attitude derrière cette réponse de ce criminel, c'est « Donc, laissez-moi tranquille, ne me condamnez pas pour mes actes. » Ben, on peut dire « Oui, il se trompe. » Parce que Dieu a institué des tribunaux humains. Ils existent et ils ont le droit de juger nos crimes, de nous punir pour des torts commis et, si possible, nous pousser à réparer les torts. Mais, sur le plan spirituel, ce prisonnier avait raison en quelque part. Parce que dans ce qu'il dit, il y a comme une question sous-entendue qu'on entend ou que moi j'entends. À ma place, est-ce que tu aurais fait mieux? À ma place, est-ce que tu aurais fait mieux? Je vais aller un peu plus profond dans cette question parce que certains scientifiques se sont penchés sur la question des régimes politiques totalitaires et mauvais, comme celui de l'Allemagne de cette époque-là, dans lesquels des peuples entiers ont participé à des atrocités. Ça peut même arriver dans une genre de secte religieuse autoritaire, ce genre de régime. Et il y a eu des expériences scientifiques là-dessus. Je pense notamment à quelque chose, peut-être vous en avez déjà entendu parler, les expériences de Milgram aux États-Unis au début des années 60. Un professeur Milgram. Et dans cette expérience, vous allez être surpris, si vous ne connaissez pas ça, des volontaires ont été sélectionnés, choisis, et leur rôle, c'était d'administrer des chocs électriques à des apprenants lorsque les apprenants se trompaient dans leur apprentissage. Donc, quelle expérience flyée. Ils étaient dans un laboratoire et ils sont, donc les volontaires, un à la fois, sont sous les ordres d'un enseignant qui demandait à un apprenant, une troisième personne, un apprenant, à répéter des choses qu'il lui dictait. Et lorsque l'apprenant se trompait, l'enseignant ordonnait au volontaire de lui administrer un voltage douloureux en punition. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Et au début, ça a commencé par des petits voltages, mais plus l'apprenant se trompait, plus les voltages étaient augmentés. Entre parenthèses, aujourd'hui, probablement, les universitaires n'auraient plus le droit de faire de telles expériences parce qu'il y a des codes d'éthique qui sont beaucoup plus stricts qu'à cette époque-là. Mais en tout cas, ça a eu lieu. Et, mais il faut que je vous dise aussi qu'en réalité, les enseignants et les apprenants de l'expérience, c'était des acteurs. OK? Et les chocs électriques étaient simulés, c'était pas vrai. Mais les volontaires ne le savaient pas. C'est
Dieu est bon.
Oui, oui. Merci, Gabriel. En réalité, merci, Francis. Alors, les volontaires ne le savaient pas. Vous êtes avec moi toujours? Et ce qui est étonnant, c'est que tous les volontaires ont donné des chocs électriques sous la pression autoritaire de l'enseignant, même jusqu'à des voltages douloureux. Et 65 % sont allés jusqu'à des voltages à un niveau mortel. Et l'autre affaire surprenante, c'est que le professeur Milgram y a réuni tous les volontaires après que l'expérience était finie. Et il leur a posé la question, ou en fait comme un genre de questionnaire, quel pourcentage pensez-vous ont administré les voltages contre leur conscience? Et eux, la moyenne était environ 1 à 2 % si je me souviens bien. Bien, en réalité, 100 % ont donné des voltages douloureux et jusqu'à 65 des voltages mortels. Donc, ça nous ramène à la question de ce prisonnier. Si tu avais été à ma place, aurais-tu fait mieux? Alors, tout ça, c'est juste une illustration, mais dans un cas concret, pour nous montrer, pour appuyer en tout cas, ce qu'on apprend de la parole de Dieu, c'est que ce que Dieu recherche dans ma vie et dans ta vie, c'est pas de m'entendre énumérer les fautes des autres, ni mes bons coups à moi, mais de lui dire, « Dieu, pardonne-moi, car je suis un pécheur. » Je vais répéter ce que Dieu recherche dans ma vie. Hein, c'est ce que le publicain de la semaine passée vous a enseigné. Il nous a enseigné. Ce que Dieu recherche dans ma vie, ce n'est pas de m'entendre énumérer les fautes des autres, ni mes bons coups, mais de lui dire, « Dieu, pardonne-moi, car je suis un pécheur. » C'est la leçon principale d'aujourd'hui. Et nous allons aller un peu plus profond grâce à ce que Paul enseigne dans l'Épître aux Romains. Déjà dans le texte qu'on a lu, mais ailleurs dans la lettre. Parce que c'est vraiment important de comprendre ça pour bien se comprendre soi-même devant Dieu. Premier éclaircissement que Romains nous donne, c'est quoi vraiment le péché? C'est quoi vraiment le péché? C'est vrai que la Bible va, à certains endroits, parler du péché comme d'un acte individuel mauvais. Un acte, comme on dit, avec l'étymologie du mot hamartia, péché, c'est manquer, un acte qui manque la cible. C'est vrai, c'est dans la Bible, mais le problème, c'est que si on se limite à cette compréhension-là du péché comme des actions mauvaises, on peut développer une spiritualité superficielle et tomber dans le panneau de voir une hiérarchie des gros pécheurs et des pécheurs pas trop pires, dont moi, je fais toujours partie. Semble-t-il que les humains, on pense toujours comme ça. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens dans l'histoire que Cynthia et vous avez lu la semaine dernière. Ce que Romain nous enseigne, puis ça c'est important, nos fautes morales individuelles ou spirituelles sont toujours le résultat d'un problème plus profond qu'on appelle aussi le péché. Et c'est ça c'est important, que nous avons en chacun de nous une propension au mal qui est présente de manière permanente dans nos cœurs. Et ça, c'est ce qui vient depuis la chute de l'humanité à ses origines. Ce qui arrive, ce péché-là, cet état de péché, et qui est la cause des actes individuels, ça peut être trompeur parce que parfois nos circonstances extérieures nous protègent jusqu'à un certain point de notre propension à faire le mal. Pas complètement, mais ça dépend de nos circonstances. Parfois c'est le contraire. Hein? On pense à ces bénévoles, ces volontaires dans le laboratoire de ce drôle de professeur Milgram. Tout d'un coup, ils deviennent je ne sais pas trop comment dire, ils ont fait des choses que jamais ils auraient imaginé faire. Nous avons en chacun de nous une propension au mal qui est présente de manière permanente dans nos cœurs. Et cette propension au mal, on sait qu'il y a des esprits rebelles contre Dieu qui nous ont poussés dans cette direction. On pense à, évidemment, Satan et les autres anges déchus. Et il y a une œuvre du mal dans le monde. Et le mal peut s'inscrire dans les sociétés et dans les organisations. C'est ce qu'on appelle le mal systémique. Et donc, toute l'Épître aux Romains nous parle du fait que nous sommes prisonniers du péché. Ce n'est pas juste qu'on commet le péché, mais nous sommes sous son emprise en tant qu'êtres humains. Donc, comprendre cela, une fois qu'on connaît l'Évangile qui nous a libérés de cette puissance, et encore, le combat continue et on va en parler, mais c'est important parce que ça nous donne la bonne attitude dans la prière, la bonne attitude dans notre approche de Dieu. Premièrement, l'humilité devant Dieu. Je ne me vante pas devant lui. Je ne parle pas des autres devant lui pour me mousser. Deuxièmement, j'ai une vision réaliste et modeste par rapport à mes plus belles œuvres, dont je suis peut-être fier, mais il faut être réaliste et modeste. Même nos meilleures œuvres ne sont jamais absolument pures. Déjà, dans mes motivations, il y a toujours un mélange de toutes sortes de choses, peut-être beaucoup de bonnes choses, mais rien n'est absolument pur. Et voilà pourquoi Ésaïe, en priant au nom de tout son peuple, le peuple d'Israël qui était le peuple qui pratiquait la loi, il priait ceci: « Toute notre justice, Seigneur, est pareille à un habit taché de sang. » Maintenant, ce n'est pas pour vous décourager de faire le bien, c'est juste d'être modeste et réaliste. Tous mes meilleurs coups, c'est Dieu qui m'aide à les faire, il les prépare d'avance. Et oui, Dieu les accueille avec joie et s'en réjouit, mais ne pense pas qu'ils sont absolument purs. Troisièmement, après l'humilité, la modestie par rapport à mes œuvres, mets ta confiance en Dieu seul pour ta réussite spirituelle, et c'est là où tu vas aller loin. Mets ta confiance en Dieu seul et pas en toi-même. Pensez à l'apôtre Pierre qui a dit de tellement belles paroles à Jésus le soir de, ben justement du dernier repas. Il a dit: « Oh Jésus, tu sais comment je t'aime et comment je te trouve merveilleux. » J'en rajoute un peu. Et il dit: « Même si les autres t'abandonnent, moi, je vais donner ma vie pour toi. » Et Jésus aurait pu lui dire: merci, ça me fait du bien, ton amour. C'est un onguent de bénédiction sur mon cœur. Non, c'est pas ça qu'il lui a dit. Il dit: Pierre, tu sais juste pas. Tu sais juste pas. Et je pense que vous connaissez la suite de l'histoire. Il l'a renié quelques heures plus tard parce que les circonstances ont changé. Il n'était pas meilleur que les autres. Donc, confiance en Dieu seul. Puis, j'ajouterais deux autres points. Dans tes prières, tu es en train d'apprendre à avoir compassion des autres pécheurs. C'est Jésus qui nous amène là-dedans. Souvenez-vous, il était sur la croix et il était en train de prier pour ceux qui étaient en train de le tuer. Père, pardonne-leur. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-leur. Et nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas Jésus sur la croix, mais nous apprenons de lui. Mais en quelque part, on peut, à notre niveau, au lieu de juger les autres, quand on est en prière, on peut prier pour eux. Et dans un certain sens, je ne sais pas trop comment dire ça, mais prendre un peu sur nos épaules les faillites des autres, comme Jésus l'a fait pour nous sur la croix. Et un petit peu comme Daniel, le prophète Daniel l'a fait lorsqu'il s'est mis à genoux à Babylone. Et alors que lui était juste, lui était le seul qui priait fidèlement et qui refusait l'idolâtrie, il priait ceci: « Ô Éternel, pardonne-nous, nous sommes un peuple qui t'a abandonné et j'en fais partie de ce peuple. Et Seigneur, je demande ta miséricorde. » Voyez-vous comment il s'associe dans un sens aux échecs des autres au lieu de les juger. Comprendre que nous avons tous un sort commun de prisonniers de ce mal qui a atteint le monde entier, ça nous met dans une juste attitude devant Dieu. J'ai deux autres éclaircissements et je vais essayer d'aller vite. C'est que comment est-ce qu'on reçoit le salut? Paul nous dit que c'est à travers la repentance dans ce texte. Au verset 4, peut-être tu reçois beaucoup la bonté de Dieu dans ta vie. Ne pense pas que c'est parce que tu l'as mérité. Paul dit, il faut que tu reconnaisses que ça t'est supposé, c'est supposé t'amener à la repentance, c'est-à-dire à prier cette prière. Dieu, ben merci, mais pardonne-moi car je suis un pécheur. Et un peu plus loin dans le texte, au verset 4, on a vu, Paul dit que le salut est réservé à ceux qui ont cette persévérance à bien faire. Et on se demande, est-ce que Paul se contredit ici? Parce que il dit au début de la lettre, c'est le salut qu'on reçoit par la foi, pas par nos œuvres. Mais ici, est-ce qu'il est en train de dire que certains vont recevoir le salut par leurs œuvres? Et je pense qu'il faut comprendre ici, puisque Paul vient de parler de repentance, c'est ceux qui se repentent et qui ont cette attitude de repentance devant Dieu. C'est ça, cette persévérance à bien faire. Ça commence toujours par reconnaître que je fais partie des pécheurs et que j'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est un passage difficile, c'est comme ça que plusieurs l'expliquent. Et ça montre que quelqu'un qui marche avec Dieu, il va avoir cette persévérance de toujours rester dans la repentance et dans la demande de pardon pour mes péchés. Amen. C'est important de rester dans cette attitude. Moi, je me souviens que je me promenais sur la rue Papineau il y a plusieurs années. Je vous ai peut-être déjà raconté ça, mais je répète ça parce qu'il y a un groupe là-bas, une genre de secte, qui proclame Jésus Seigneur et Sauveur. Et ils étaient dans la rue, ils nous invitaient à venir à leur église. C'était l'église, je ne sais pas si c'est encore là, mais ils ont un gros panneau en néon, puis leur motto devant leur église, c'est « Le salaire du péché, c'est la mort ». Puis c'était censé nous attirer. Mais ils prêchaient le salut en Jésus. C'est le salaire de ton péché. Oh, wow, oui, le salaire de ton péché, c'est la mort. Mais le monsieur qui m'a accosté dans la rue, il m'a dit, oui, je suis sauvé en Jésus-Christ et tu peux l'être aussi. Il ne savait pas que je l'étais déjà, mais et que je connaissais déjà Jésus et que je vivais avec lui. Mais il m'invitait et il dit, puis moi, je n'ai pas péché depuis 1972. Et je pense que c'était déjà dans les années 90 qu'il m'a parlé. Et vraiment, ils ont cette idée qu'ils sont maintenant au-dessus du péché. Et c'est là la mauvaise piste. Il faut cette persévérance à bien faire. Et je sais que ça inclut beaucoup d'autres choses, mais cette repentance doit être un point de départ. Qu'est-ce qui cause maintenant cette repentance menant au salut dans ma vie, dans ta vie? Eh bien, il ne faut pas penser non plus que ça vient de moi, de mes mérites à moi. Bien que Dieu m'a donné un rôle en plaçant ma foi en lui, en m'ouvrant mon cœur. Mais même mon acte de repentance, c'est l'initiative de Dieu. Et c'est ça mon troisième éclaircissement qui vient de Paul. Et ça, il le dit plus tard dans l'Épître. C'est parce que Dieu a décidé d'avance de m'aimer, de me sauver. Et même avant la fondation du monde, il pensait à moi. Il pensait à mon salut. Et il a décidé de me conduire lui-même à ce point de repentance. Je n'ai pas lieu de me vanter. Mais j'ai lieu de remercier. Moi, j'étais prisonnier de cette force qui s'est insérée partout et jusque dans le cœur de chacun d'entre nous, cette force qu'on appelle le péché. Et oui, il y a une solution, il y a une libération. c'est la suite de l'Épître aux Romains, c'est Jésus mort pour nous ressusciter, pour nous donner une nouvelle vie. On va le célébrer autour de cette table dans pas longtemps. Mais ça commence toujours par cette prière, « Dieu, pardonne-moi, car je suis un pécheur. » Même nos bonnes actions, j'en ai parlé, et quelle joie de vivre dans cette nouvelle vie où on peut faire l'œuvre de Dieu comme ses collaborateurs. Mais n'oubliez pas comment Paul, en fait, c'est pas dans Romains ça, mais c'est la même vision. Et c'est Paul qui écrit dans Éphésiens, « En effet, c'est par la grâce, c'est-à-dire le cadeau gratuit de Dieu, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Vous voyez, on revient toujours au même thème. Notre attitude devant Dieu et devant les autres. Personne ne peut se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, c'est-à-dire c'est lui qui nous a refait en Jésus. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On va arrêter là, on va conclure. On a déjà dit que l'évangélisation, ce n'est pas un riche qui aide un pauvre, mais c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où il a trouvé du pain. Et la table du Seigneur, c'est un peu la même chose. La croix de Jésus à laquelle nous sommes invités à nous approcher, ce n'est pas un endroit où des riches aident des pauvres, mais c'est un endroit où les mendiants du monde entier peuvent venir, main dans la main, manger du pain de la vie et boire de la coupe du pardon. Amen. Je vais répéter ça. La croix de Jésus, c'est un endroit où les mendiants du monde entier viennent main dans la main, manger du pain de vie et boire de la coupe du pardon. Il ne faut jamais penser que quelqu'un comme Gabriel, qui est peut-être ici ou peut-être déjà parti, qui serait exclu parce qu'il a un comportement qui est hors norme. C'est vrai que c'est difficile à gérer. Merci aux amis, à notre ancien Francis et à d'autres qui l'ont accueilli et qui ont aidé. Mais la croix est pour lui aussi. D'ailleurs, il en portait une, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, oui. Mais c'est merveilleux. Alors, quelqu'un est allé communier avec lui à la pizzeria. Wow! Bien, ça, c'est une prédication encore plus convaincante que tout ce que je viens de, de vous dire. Mais en tout cas, Dieu est bon et nous sommes, c'est ça, nous sommes tous ses mendiants au niveau spirituel, tous égaux les uns des autres devant notre Sauveur. J'en fais partie. Est-ce que tu en fais partie? J'espère que tu peux dire oui ce matin. Et si tu dis oui, bien viens à cette table. Comme ça, on peut tous prier individuellement et ensemble. Père, pardonne-moi, car je suis un pécheur. Et merci parce que tu as pourvu à mon pardon et à ma nouvelle vie. Et pas juste moi, mais l'autre mendiant qui est à côté de moi et nous tous. Amen. Amen. Donc, je vous invite à prier et ceux qui voudraient reconnaître leur besoin du pardon de Dieu, je vous invite à vous lever et pas d'obligation. Mais j'invite tous ceux qui le désirent de se lever et prier avec moi maintenant. Peut-être que c'est nouveau pour toi et tu sens que oui, je veux exprimer mon remords, mais aussi ma demande de pardon au Seigneur. Père, merci pour ce principe, ne jugez pas, que tout le monde aime citer, mais quand on va en profondeur dans ce que ta parole nous dit là-dessus, ça nous ramène à notre réalité, notre triste réalité, mais aussi à notre joyeuse réalité qui est Christ venu parce qu'il nous aimait, mort et ressuscité pour nous, vivant en nous. Peut-être que tu entends ce message ou tu le comprends pour la première fois, je t'invite à recevoir Jésus dans ta vie pour pardonner tes péchés et faire de toi la personne que Dieu veut que tu sois. Reçois-le dans ton cœur maintenant. Père, transforme-nous en cette communauté qui est humble, qui est prête à accueillir le nouveau, la nouvelle personne, comme nos frères viennent de faire. Et nous te demandons de nous visiter, Jésus, dans ton amour, durant le saint repas que nous allons prendre ensemble maintenant. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Amen. Ne vous asseyez pas. Je vous invite à prendre quelques minutes pour vous saluer les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres au nom du Seigneur.